RCF. Fidèles des fidèles de RCF et de l'émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, dans le cadre du Berry se raconte avec Agora Défense. Nous poursuivons notre découverte de notre beau département et de ses richesses. Après les archives départementales, nous allons nous intéresser au musée de la Résistance qui se situe à Bourges, jouxtant les archives du conseil départemental. Avec comme invité, M. Xavier Laurent, directeur du musée de la Résistance, mais aussi directeur des archives départementales. Bonjour, monsieur le directeur.
Bonjour.
Et encore merci d'avoir pris du temps et d'avoir accepté mon invitation. Ma première question. Le musée de la Résistance de Bourges est un de ces nombreux lieux de France consacrés à cette période. Quelle est son originalité, monsieur Laurent ?
Alors, je pense qu'il y a une double originalité au musée de la Résistance et de la déportation de Bourges. La première originalité, c'est la thématique de la ligne de démarcation, puisque le département, comme vous le savez, a été partagé en deux par une frontière intérieure mise en place par l'occupant allemand et le régime de Vichy. Et cette frontière intérieure, elle a eu beaucoup de répercussions sur la vie quotidienne, sur l'apparition des mouvements de résistance, sur beaucoup d'aspects de la vie du département pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment au cœur du musée qu'on présente, avec aussi les figures de passeurs qui clandestinement ont fait franchir la ligne de démarcation. Donc c'est un élément fort de la vie du département. Alors c'est partagé avec d'autres départements en France, mais à cette échelle d'un département vraiment partagé en deux, pas si souvent que ça. Par exemple, la ligne, elle effleure l'Indre-et-Loire, mais bon, elle partage vraiment la Charente. Il y a quelques départements qui sont comme le Cher, vraiment coupés en deux, mais c'est un élément fort de notre musée et on y tient. Et puis, la deuxième originalité, c'est finalement cette situation partagée avec les archives départementales, puisque ça, c'est unique en France, un choix innovant et intéressant, je pense, parce qu'il y a finalement beaucoup de correspondances entre musée et archives. On reçoit des visiteurs au musée qui se rendent compte que finalement, ils sont détenteurs d'archives d'un ancêtre qui a eu des engagements pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça nourrit les archives départementales. À l'intérieur du musée, je crois que ce qui est frappant pour le visiteur aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'archives qui sont exposées. C'est souvent le cas dans les musées de la Résistance, mais c'est particulièrement le cas chez nous. Donc, il y a du sens à ce que les archives départementales et le musée soient dans les mêmes locaux.
Alors,
finalement.
Donc, qui a créé ce musée ?
Alors, ce musée, c'est le rassemblement de deux musées qui préexistaient dans l'agglomération de Bourges et qui sont apparus à peu près au même moment, à la fin des années 1990, 94-95. Oui. Donc, il y avait un musée qui se trouvait au Hall Saint-Bonnet, oui, à Bourges, qui était soutenu très fort par la municipalité berruyère, mais qui était associatif, qui avait été à l'origine porté par des anciens qui avaient vécu la période. On peut citer Maurice Renaudat, Monsieur Jacquet, etc. Ouais. Enfin, il y a eu plusieurs artisans à cette création du musée des Halles Saint-Bonnet. Et puis, il y avait un deuxième musée qui était à Fussy, donc banlieue nord de Bourges. Et ce musée de Fussy était l'œuvre d'Alain Raffestin, ouais, qui a eu une activité d'historien de la résistance assez forte et qui est devenu ensuite maire de Fussy, puis président du conseil général, et qui a eu un rôle vraiment moteur dans le rassemblement des deux collections et dans le fait de les adosser aux archives départementales.
Oui, c'est véritablement une belle initiative.
Oui, c'est une belle initiative parce que dans les années 2000, en fait, il y avait des craintes sur la pérennité de ces deux musées. Les associations qui les portaient étaient quand même vieillissantes.
Voilà.
Les moyens pour accueillir le public étaient limités. Et donc, les deux associations s'interrogeaient quasiment en même temps, finalement, sur la pérennité de leur collection. Et le fait de les rassembler en un lieu unique, de les mettre finalement adossés à une institution qui avait une longue histoire, les archives départementales, et qui est appelée à durer, c'était la voie de la sagesse. Et je pense que ça a donné un bon résultat.
Ouais, ce n'est pas le cas, malheureusement, de la Fondation Maginot.
Non, ce n'est pas le cas, malheureusement, du musée Histoire-Image, ouais, ah, qui a disparu corps et bien. Et dont on regrette tous un peu la.
Vous n'avez pas pu agir un peu.
Alors on a essayé d'agir et de récupérer quelques petites choses. Alors sur tout ce qui était papier, on a bien réussi,
oui.
Puisqu'on s'est fait remettre toutes les archives qui avaient été collectées, parce que un peu comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait eu un cercle vertueux aussi qui s'était créé, c'est-à-dire que avec l'existence de ce musée, il y avait des gens qui avaient remis des choses. Des papiers notamment, des photos, etc. Et ça, on l'a récupéré. Sur les objets, on n'a pas pu beaucoup agir. Même au moment de la vente aux enchères, on s'était porté acquéreur de quelques lots. Je crois qu'on en a eu un. Voilà. Enfin, c'est pas grand chose, quoi.
Oui, tout à fait. Alors justement, la volonté de ce musée de la Résistance, hein, qui est un beau musée, c'est être un objet, être un dépôt d'objets, ou est-ce que c'est la volonté de transmettre une mémoire?
Alors, c'est avant tout une volonté de transmettre la mémoire. Je pense que ça, c'était une visée qui était très claire de la part des deux associations qui se sont rassemblées. C'était une visée qui était très claire de la part des élus aussi. Donc, du coup, c'est un musée qui est gratuit, qui a beaucoup d'activités vers les scolaires et qui porte vraiment un message, oui, de mémoire et d'histoire aussi, c'est-à-dire que on veut se rappeler ces événements, la spirale qui a conduit à la guerre, aux discriminations, aux persécutions, pour pas que ça se reproduise, mais on sait aussi que c'est un objet d'histoire, donc on invite aussi notre public finalement à se confronter aux documents pour faire cette analyse aussi qui est importante sur la période.
Très bien. Alors justement, comment organisez-vous la communication de manière à permettre au plus grand nombre de connaître? Alors je pense plus particulièrement aux écoles, aux collèges, aux lycées. Aujourd'hui, nous allons commémorer l'insurrection du ghetto de Varsovie. Hein, Comment faites-vous? Parce que c'est fondamental de transmettre, c'est à la jeunesse, c'est aux enfants, c'est au collège, au lycée, hein, et aux primaires. Hein, les primaires sont très sensibles.
Tout à fait. Alors on est confronté à la disparition des témoins. Hein, il y a encore 12 ans, quand j'étais tout jeune directeur des archives départementales et responsable du musée de la Résistance qui venait d'ouvrir, on avait encore des témoins. Et c'était un apport assez irremplaçable, finalement. De pouvoir faire se rencontrer quelqu'un qui avait connu les événements, jeune homme ou jeune femme, et les jeunes générations qui avaient beaucoup de questions à poser. Donc ça, c'est une période qui est finie, qui est derrière nous, hein, puisque les tout derniers témoins sont plus tellement en état de témoigner.
Oui, oui.
Donc à nous maintenant d'inventer d'autres formes de médiation. Alors on a collecté beaucoup de témoignages audiovisuels. Et ça, c'est une ressource qui est complémentaire du musée, qu'on met souvent en avant avec le public scolaire. Et puis après, il faut inventer d'autres formes de médiation. Il y a toujours une curiosité pour la période. Je sais que les scolaires, quand ils abordent la question de la Seconde Guerre mondiale dans les programmes d'histoire, etc., ça fait toujours partie des moments un peu cataclysmiques, enfin, où tout le monde est renvoyé aussi à l'idée de son propre engagement. Donc c'est des périodes qui comptent toujours quand on étudie l'histoire. Après, il faut faire passer le message de manière différente. Je pense qu'il est important aussi dans une structure comme la nôtre de confronter le public à la matérialité des choses, parce qu'on est de plus en plus dans le, oui. le virtuel. Et une visite au musée, c'est justement l'occasion de voir une étoile jaune sur une blouse d'écolier. C'est l'occasion de voir une photo que d'habitude on n'a que dans son manuel. C'est l'occasion de voir une affiche de propagande de Vichy qui peut porter sur les juifs, etc. De la voir en, dans sa grande dimension, de l'imaginer encore avec les traces de colle qu'elle a été mise sur le mur, vraiment, quoi, hein, qu'elle n'était pas seulement, qu'elle est pas seulement dans notre manuel d'histoire. Voilà, je crois au contact direct avec le patrimoine. Que,
justement, quelles sont vos relations? Comment travaillez-vous avec l'éducation nationale? Alors, parce que là, il y a quand même il y a un vivier.
Oui. Tout à fait. Alors, on essaie d'être largement ouvert aux scolaires, de proposer des séances thématiques. On a toute une offre, en fait, qu'on dirige vers les enseignants. Et on reçoit aussi l'aide d'un professeur qui est mis à disposition par l'Éducation nationale et qui est dans nos murs pendant toute une après-midi. Et donc, son rôle à lui, c'est de préparer des contenus pour les groupes de scolaires qu'on va recevoir, de valider aussi les activités qu'on leur propose et puis de sensibiliser ses collègues. On a des séquences aussi de formation, en fait, avec les enseignants pour qu'ils abordent la Seconde Guerre mondiale avec des ressources du musée.
Très bien. Bah écoutez, quel est le programme à venir pour ce musée?
Alors, actuellement, on s'intéresse aussi beaucoup à la mise en valeur du site des Puits de Guéry.
Ah oui.
Parce que c'est un lieu de mémoire majeur de la Shoah dans le Cher. Hein. C'est un lieu assez unique. Où 35 juifs ont été massacrés à la fin de la Seconde Guerre mondiale à l'été 44. Et ce lieu d'exécution massif est assez unique en France et on essaie de le mettre en valeur avec les scolaires. Donc avec l'aide de la DGA, puisque ça se trouve sur le site du polygone de tir, on ouvre assez largement, on accueille des groupes, on les accompagne. Souvent, on propose des visites conjointes, finalement, musées, archives, puits de Guéry, pour voir le lieu de mémoire et aussi les traces qu'il a laissées dans les archives ou la partie qui lui est consacrée dans le musée. Et puis sinon, là, très bientôt, nous allons accueillir une exposition sur la bande dessinée et la résistance. Parce que dès la libération, finalement, la figure du résistant a été représentée dans la bande dessinée. La représentation du résistant a connu des inflexions, il y a des différences qui sont intéressantes à observer. Donc, c'est une exposition qu'on va présenter entre le printemps et l'automne de cette année.
Très bien. Monsieur le directeur, merci pour ces explications passionnantes. À vous, auditeurs, auditrices de RCF, je ne peux que vous encourager à venir visiter ce musée, témoin d'une histoire à ne pas oublier, afin d'éviter la triste réalité de l'oubli mémoriel, indispensable pour mieux affronter et construire l'avenir. Merci à vous et bonne semaine. Merci encore, monsieur Laurent. Merci.
Merci.